La philo-lophie, un voyage intérieur
et extérieur
d'Aristote à Zarathoustra. Marcher 5 minutes avec toi.
C'est comme Critias,
Cicéron,
Callimaque,
Cioran,
Cassiodore,
Campanella,
Condillac,
Condorcet,
Châtelet,
Camus,
Cassin,
Cantos,
Sperber, Califon,
Coluche,
Casimir, Auguste Comte.
Mais des fois je dis le prénom.
La Castafiore.
Ah oui, bien.
C'est comme connivence. Se laisser dominer entièrement par le langage et les visées de la science et de la sagesse, c'est trouver un moyen convaincant de se défaire de ce quelque chose en nous qui parle et continue de parler en dehors des conventions. Mais ce n'est pas au départ l'effet d'une volonté que de se rendre à ce gouffre que représente à l'extrême la science et la sagesse. On pourrait considérer la science comme une version technique, maîtrisée, en définitive, de cette absence de visage, de cette trouée, cet inconnu, effrayante. Et la sagesse, une manière qui se voudrait plus spirituelle, de laisser à nouveau ce non-visage nous emporter, tout en se donnant des allures de compagnon bienveillant.
Dès l'abord, un visage se forme dans l'ombre qui cherche ses contours, et un jour, ce visage sera celui qui parle. C'est peut-être la plus petite chose, une tête d'aiguille au-devant de l'immensité qui nous habite, une conséquence, cette immensité, alors en nous. Ce petit, tout petit larcin, tout petit cambriolage, ma vie donnée, cette procréation. Au surplus, ça enlève toute sacralité à l'événement. Enfin, ouf, on respire. Au surplus. Enfant, tout enfant, on en a l'intuition de ce « c'est pas normal, c'est pas très dans les clous ce qui m'arrive, ça n'a rien de réglementaire. » Et on en profite à fond pour tout essayer. Sinon, comment apprendrions-nous à parler? Il n'y aurait juste pas la place. Apprendre à parler, c'est déjà sortir de la ligne. Heureusement, on ne le sait pas. Ça ferait trop peur de savoir qu'on est là en liberté.
La philosophie, en résistant à l'aspiration de ce gouffre, de cette absence de visage ou de ces maquillages illusoires, est une alliée combative qui, tout en considérant le langage et ses possibilités étonnantes, les chemins qu'il nous propose à tout moment, joue aussi à se perdre en lui pour mieux se retrouver. Elle vient ainsi contrarier la tentation d'absolu que revêt la science et le langage quand on leur laisse libre cours à tout endroit de la vie.
Nietzsche a raison quand il en arrive ainsi à formuler ce grand oui et à s'ouvrir au grand hasard, en toute humilité, une humilité conquérante et hardie, pour au fond désigner la philosophie comme devant s'émanciper de tout usage, de toute forme d'utilisation qui serait provisoire, qui nous rendrait service, qui confinerait, elle aussi, à nous entraîner dans le gouffre. La regarder au-delà, c'est voir en elle quelque chose de combatif, qui n'est pas seulement la projection de notre intelligence, mais qui vise au-delà.
Cependant, il reste tout aussi important, dès lors qu'il n'y a plus rien, de prendre soin encore et malgré tout, de ce plus rien. Notre corps, ici, même s'ils ne portent plus rien, notre esprit même, doivent se montrer capables d'être là, présents, pour supporter et traverser ce passage avide.
Ainsi, celui ou celle qui se donne la mort, cède-t-il ou cède-t-elle à la tentation de se libérer de ce rien, en ne voulant plus être l'hôte de rien? Il est cependant possible à cet endroit de persister, sans attendre aucune validation, sans dépendre d'aucun acquiescement. Mais le plus dur alors, c'est par-delà sa propre solitude, de sentir monter la solitude entière de tous les humains, le sentiment que cette solitude l'emporte sur tout et sur tous.
Il n'y a alors plus d'autres susceptibles de changer ou d'interroger. Ni moi par un autre, ni personne pour moi. Cette absence totale de visage nous renvoie à nouveau au gouffre et à la promesse d'anéantissement. Soudain, mon humanité m'apparaît comme un mirage qui n'a pas et n'aura pas lieu. Ce qui apparaît alors peut sembler pire que tout, ça n'a pas de fond propre ni de réalité. Cette réalité en trop que nous devenons alors, nous sommes tentés de nous en débarrasser, car elle n'a plus de raison d'être par elle-même, en elle-même. Elle ne justifie plus le monde, elle l'excède. Elle est la fin de toutes les promesses.
Qu'il n'y ait que cette vie-ci, ou qu'il y en ait une autre, ou bien qu'il n'y en ait aucune, ou une infinité de semblables, dans les deux cas, les deux propositions reviennent au même. Et les deux cas se présentent ici, car il y a des êtres en quête qui, dans le temps de leur vie, vivent et revivent encore et différemment. Et c'est toujours la vie, et c'en est toujours une autre. La vie revient vers eux, de nouveau, dans leur vie et au-delà. Ils seront peut-être chats, chiens, oiseaux, fourmis, ou encore humains. Ils sont et ils seront. Et il y en a d'autres, qui sont multitudes, une infinité de fois eux-mêmes, c'est-à-dire rien, et ne seront jamais. Pourtant, les deux espèces se croisent et cohabitent depuis toujours.
Mais ce qui apparaît là, au fond, nous attendait depuis le début. Nous n'aurions fait qu'essayer de le masquer avec notre collaboration et celle des autres. Cela aussi est insupportable, que nous nous sentions seuls et perdants à ce jeu dans lequel tout le monde aide l'autre à entretenir ses propres illusions, que nous soyons incapables, seuls et ensemble, de se dire cette vérité du rien et cette aspiration du gouffre à laquelle pourtant nous voulons résister. J'ai collaboré avec tant d'autres à me masquer cette vérité et voilà qu'elle est là maintenant toute seule avec la mort. Ce mensonge entretenu et constaté à plusieurs est difficile à regarder. C'est encore un autre des visages de Zeus, de ces visages qu'on ne peut regarder sans défaillir.
C'est une vérité qui est en même temps le lieu du refus de s'aventurer seul en soi, à l'endroit où il ne reste que ce chemin, même provisoirement, pour rejoindre à un moment donné l'autre. Or, le monde entier, sous le monde apparent de l'illusion que nous entretenons si facilement à plusieurs, est ouvert à cette aventure solitaire. Qui ne l'a rencontrée en promenade, en randonnée, à la forêt, à la montagne, au bord de la mer, ou parfois même simplement chez soi, à écouter de la musique ou à lire?
Cette aventure si vaste et toute humaine que l'on contient en soi, peut-être ne nous pardonnons-nous pas de ne pas avoir su la tenter, seule. Seule certainement, seule sans compromis, seule à ne savoir que faire de son existence. C'est pour cela que la parole, nous ne pouvons pas, sans conséquences funestes, pour un seul isolé ici ou là, en faire n'importe quoi. Car dans la solitude, ne plus trouver de passage, parce que collectivement, Nous avons rendu son terrain sans mystère, sans ouverture, sans sentier qui nous soit disponible et sans surprise. Elle ferme toute issue pour celui ou celle qui est seul.
C'est là que le poème, la musique ou la peinture sont des secours vivants, car ils ouvrent la capacité d'y voir mieux en soi-même, par soi-même. Mais encore faut-il en prendre soin ensemble. La parole qu'on dit de Dieu et la prière pour les croyants ne sont pas autre chose au sein de l'amour vivant que ce respect, cette dévotion qui donne et réserve à chacun, au sein de tous, un espace d'accueil et de réconfort.
La parole, notre parole, devrait être pour nous, humains, un moyen de reconnaissance ou même de renaissance, la garantie permanente que quelque chose est en train de se vivre hors de tout et pourtant présent au monde, capable d'accueillir le sens et le non-sens, en même temps, à chaque instant, capable d'offrir à chacun, y compris dans la solitude et l'isolement le plus profond, la place unique qui lui revient.
Nous sommes donc à la recherche de ces connivences, ces moments comme lorsque nous étions enfants, expérimentateurs de soi, nous tentions ça et là, face à la maladive sagesse des grands, de cultiver notre part secrète d'héritage. Rappelez-vous ce coin de feu où, à quelques-uns, vous vous perdiez à fredonner ensemble quelques chansons, joyeuses ou mélancoliques. Rappelez-vous ces coins d'ombre et ces cachettes, ces fantômes et ces trésors qui vous tenaient compagnie comme de vivantes flammes. Rappelez-vous cette écharpe avec ses peluches de laine, ces chaussettes qui grattaient et ce creux de bonheur où vous séchiez vos larmes, ce chien camarade qui vous tournait autour et ce paquet de feuilles d'arbres jaunis où vous découpiez des songes pour l'automne. Rappelez-vous cette grotte sous l'escalier où vous comptiez vos rêves de souris et vos trophées de parfaits cambrioleurs. N'était-ce pas vous, dans ce grenier à l'abandon, derrière ce vieux carton de manuscrits, près des cajots endormis, pleins de journaux encore pliés, de cette corbeille d'anciennes pelotes, de ce verre de lampe verte empoussiéré, ces boîtes d'allumettes remplies de punaises, de timbres poste, de balles de vieux pistolets. Vous et les images manquantes de la mariée dans l'album de photos renversées. Et cette toile noircie devenue cassante du vieux parapluie. Cette antenne de télé et ce chiffon sous la lucarne cerné de toile d'araignée. Vous qui cherchez quelques vieux sous dans ce tiroir d'écolier, n'était-ce pas vous, dans cet encrier vide, dans ces vieilles bottines aux lacets usés, vous qui, comme mille autres déjà partis, venez reprendre à ses débuts le chant des sources abandonnées. La philosophie, un abécédaire en haute
et basse fidélité,
texte
et commentaire de texte,
Arnaud Gosselin.